السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کل ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام
Nous sommes en train de passer par le mois islamique Muharram al-Haram. C'est le premier mois du calendrier islamique. Généralement, quand débute la nouvelle année, nous présentons nos meilleurs vœux aux uns et aux autres. Vendredi dernier, ce mois avait débuté dans certaines régions du monde. Ce mois avait débuté jeudi dernier. Et lorsque je suis venu pour la prière du vendredi, à l'extérieur, quelqu'un m'a présenté ses vœux pour la nouvelle année. Mais quels vœux a-t-il présenté? Ce même jour, en Irak, il y a eu un attentat contre les chiites. Et plusieurs douzaines de personnes ont perdu la vie. Au début de la nouvelle année, généralement, nous présentons nos vœux. Mais quand débute cette nouvelle année lunaire, la grande majorité des musulmans qui sont nobles de caractère, ces musulmans qui ressentent une grande douleur pour l'islam, ont des soucis en raison de ce mois. Pourquoi cela? Tout comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a ces attentats, c'est parce qu'il y a ces tueries. Ils savent très bien que durant ces jours, en dépit des appels au calme de la part de l'État, en dépit des déclarations communes des oulémas de toute obédience, en dépit de tout cela, il y a des troubles qui commencent entre les chiites et les sunnites. Il y a des attentats là où il y a des cérémonies des chiites, où il y a des attentats là où se trouvent les mausolées des imams. Il y a des attaques de la part des parties adverses ou de la part des fauteurs de troubles. Et maintenant, les parties intéressées et les terroristes sont devenus des jouets entre les mains des autres. Et ils s'attaquent aux chiites, ou là où se réunissent les chiites pour leur cérémonie, et ils prennent la vie des douzaines de personnes. Parmi ceux qui commettent ces attentats, il y a ceux qui n'ont aucun intérêt religieux. Ils ne commettent pas ces attentats en raison du sectarisme. Ils ont uniquement des buts politiques lorsqu'ils commettent ces attentats. Ils veulent tout simplement mettre à mal le pouvoir de l'État. Généralement, le 10 du mois Muharram, il y a plus de dangers. Ici en Occident, demain sera le 10 Muharram, mais ici il n'y a pas de danger. Mais à l'est, au Pakistan, aujourd'hui c'est le 10 du mois Muharram. En ce jour, les atrocités atteignent leur comble. Cette année-ci, il y a eu des attentats sur les centres des chiites, tout comme je l'ai dit. Le premier jour de ce mois de Muharram, il y a eu des attaques sur les chiites en Irak, au Pakistan, à Rawalpindi, à Karachi, à Quetta, dans le Swat. Il y a eu ces attentats. Il y a eu plusieurs attaques et il y a plusieurs personnes qui sont mortes. À Rawalpindi, avant-hier, il y a eu un attentat, ainsi que hier aussi. Hier, 23 personnes sont décédées des suites de ces attentats, des attentats lancés contre les chiites. Et quand les chiites ont l'occasion, ils se vengent eux aussi. La situation de la Oumma est des plus déplorables. C'est une situation qui mérite pitié. C'est en raison de ces dissensions que l'écart est en train de se creuser entre les États musulmans ou entre les musulmans eux-mêmes. Dans certains pays, les minorités religieuses sont au pouvoir. Et face à cette situation, la majorité est en train de réagir violemment. Et c'est ainsi qu'ils ont recours à la violence. Quand la majorité a l'occasion, ils lancent des assauts contre la minorité. Et au nom de la lutte antiterroriste ou pour réprimer les rebelles, l'État tue des milliers d'innocents. Il y a des bombardements aveugles et on tire aussi à l'aveuglette. On détruit les maisons et dans leur pays, ils sont en train de tuer des milliers d'hommes et de femmes. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Et c'est pour cette raison que les forces anti-islamiques ont le champ libre pour imposer leur dictat. Les attaques contre les Palestiniens par l'Israël est en raison des dissensions parmi les musulmans et parce qu'ils sont désunis. Dans tout pays musulman, là où il y a des discordes en raison de la religion ou en raison de la politique, dans tous ces pays, l'on est en train d'outrepasser toutes les bornes des valeurs humaines. Dans ces pays, là où il y a ces discordes, l'on est en train de commettre des atrocités. Et en conséquence, là où l'on est en train de commettre ces atrocités, nous sommes en train de voir tout cela. Mais d'autre part, les forces anti-islamiques extérieures profitent de la situation pour resserrer leur étau sur les États islamiques. Si seulement les musulmans pouvaient comprendre cela, si seulement ils pouvaient tirer leçon de leurs illustres prédécesseurs. Que nous enseigne l'histoire en de telles situations? À l'époque, il y avait une grande force anti-islamique, l'État romain. Et l'État romain a eu vent des dissensions entre Hadrat Ali et Muawiyah. Et ils ont cru que l'État islamique était faible. Et pour retrouver sa gloire d'antan, l'État romain a voulu lancer une attaque contre les musulmans. Lorsque Muawiyah a su cela, il a envoyé un message au roi des Romains. Il a déclaré que n'essayez pas de profiter de nos dissensions pour vous attaquer aux musulmans. Si vous vous attaquez aux musulmans, je serai le premier général de la part de Hadrat Ali pour contrer cette attaque. Voilà donc la réaction de ses compagnons dont nous disons être les suivants. Et aujourd'hui, ces personnes sont en train de se liguer avec les ennemis pour comploter contre les États islamiques. Et ils se disent musulmans. Certes, ces soi-disant ulémas ou ces groupes, ceux qui fomentent ces troubles, sont unanimes concernant un seul point. Ils sont unanimes pour comploter contre la Jama'a du Messie promis. Ou ils sont unanimes pour faire sortir par force les Ahmadis de l'islam, ces Ahmadis qui croient de tout cœur dans la kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ces gens n'ont aucune crainte. Ils disent croire dans ce prophète. Ils récitent la kalima. Et ils disent aussi qu'ils sont prêts à sacrifier leur honneur et leur vie pour ce prophète. Mais ils ne réfléchissent pas sur les paroles de ce prophète. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a présenté un principe général qui ne s'applique pas à un seul compagnon. Il lui avait dit, est-ce que tu as ouvert le cœur de cette personne pour voir s'il avait récité la kalima sincèrement ou par peur? Si seulement ces personnes pouvaient réfléchir à ce sujet. Les soi-disant ulémas, au lieu de se targuer de leurs connaissances, doivent comprendre cela. Au lieu d'égarer la masse, ils doivent leur enseigner la justice et leur montrer la vérité. Ils doivent aussi se lier à ce champion de Dieu et mettre fin à ces atrocités, à tout ce sectarisme, et mettre fin à ces guerres de religion, afin qu'ils puissent répandre les enseignements de l'islam. Répandre les enseignements de l'islam selon les préceptes de l'imam de l'époque, afin qu'ils essayent de mettre fin à la force et la suprématie de l'ennemi, et afin qu'ils puissent réunir l'humanité sous la bannière du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. J'ai parlé donc à propos du mois de Muharram, et aujourd'hui, je vais présenter quelques écrits du Messie promis à l'islam à ce sujet. Je vais présenter ces écrits afin que ces centaines de milliers d'Ahmadis puissent comprendre cela, afin que les nouveaux venus parmi les Ahmadis, et afin que les jeunes aussi puissent comprendre cela, ces jeunes qui n'ont aucune connaissance à ce sujet, afin qu'ils comprennent comment le Messie promis à l'Islam a honoré les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, comment il a reconnu le statut de ses compagnons, et comment il a mis fin à ces dissensions entre chiites et sunnites et comment, suite aux ordres de Dieu, il est venu réunir tous les musulmans. Il est venu les réunir pour en faire une seule umma. De même, il y a des non-Ahmadis qui écoutent nos sermons ou qui écoutent ce que nous avons à dire, afin qu'ils comprennent eux aussi quels sont les véritables enseignements à suivre pour être à l'image de Ruhama au Bainahum. Qu'ils réfléchissent à ce sujet. Jusqu'à quand vont-ils se lamenter sur la situation déplorable des musulmans? Jusqu'à quand vont-ils manifester dans les rues? Vont-ils commettre des actes de terrorisme? Et vont-ils croire qu'ils sont en train de servir ainsi l'islam? Jusqu'à quand vont-ils commettre ces actes sans lendemain et offrir ainsi l'occasion à l'ennemi pour s'attaquer de nouveau à l'islam? Que que ces troubles et cette anarchie que l'on voit dans ces pays musulmans soient le résultat des exactions qu'ils commettent les uns contre les autres, ou que ce soit le résultat des attaques des forces anti-islamiques contre les musulmans pour rétablir la paix et pour trouver la solution à toutes ces difficultés. Et pour que les musulmans puissent retrouver leur gloire d'antan, il y a une seule solution, c'est de se tourner vers celui qui a été envoyé par Dieu, celui qui est l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Celui qui avait pour mission de répandre les enseignements du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans le monde. Tout comme je l'ai déclaré, je vais présenter quelques écrits du Messie promis alayhi salam, des écrits dans lesquels il nous éclaire concernant le statut des compagnons. Si les musulmans veulent s'unir, s'ils veulent retrouver leur gloire d'antan, et s'ils veulent protéger l'islam, et s'ils veulent transmettre le message de l'islam aux autres afin de les réunir sous la bannière du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, alors ils doivent mettre fin à cette distinction entre les chiites et les sunnites. Ils doivent mettre fin à ce sectarisme. Ils doivent suivre l'enseignement de l'islam, l'islam véritable, l'islam apporté par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Un islam exemple de tout sectarisme. Un islam où tout compagnon du saint prophète était un exemple de vertu et de sacrifice et de taqwa. Ils étaient des étoiles qui dirigeaient les autres. Mais certains de ses compagnons avaient un statut plus éminent aux yeux du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Allah et son prophète ont évoqué l'éminence du statut de Hadrat Abu Bakr, et aucun autre compagnon ne pourra avoir le même statut. De même, Hadrat Omar a un statut particulier, Hadrat Othman, ainsi que Hadrat Ali, ils ont tous leur statut particulier. Imam Hussein et Hassan ont leur statut particulier. Ainsi, il est important de reconnaître les compagnons par rapport à leur statut particulier. S'il en sera ainsi, eh bien, on pourra mettre fin à ces troubles. Et pour mettre fin à ces discordes, Dieu a envoyé parmi les Akhrin le Messie premier alayhi salam. Et le Messie premier alayhi salam nous a demandé de respecter tout compagnon du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Dans son ouvrage Sirul Khilafa, écrit en arabe, le Messie premier alayhi salam déclare que Dieu m'a informé que Abu Bakr radiallahu anhu était le plus éminent parmi tous les compagnons du saint prophète, et sans aucun doute il était le premier calife. Et le verset concernant le califat a été révélé à propos de lui. Dans cet ouvrage, Sirul Khilafa, le Messie premier alayhi salam déclare que certainement, Abu Bakr était le deuxième Adam de l'islam. Il était le premier représentant du saint prophète, paix soit sur lui. Certes, il n'était pas un prophète, mais il possédait la force des prophètes et des messagers. Et dans l'ouvrage Sirul Khilafa, le Messie premier à l'islam déclare que Allah savait très bien que Abu Bakr as-Siddiq était le plus brave des compagnons. Il était le plus motaki. Et il était celui que le saint prophète aimait le plus parmi ses compagnons. Il était un général victorieux. Il s'était complètement immolé dans l'amour pour le saint prophète. Et dès la première période, il avait une grande sympathie pour le saint prophète. Et il a toujours soutenu le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est pour cette raison que lorsque le saint prophète était en difficulté, Dieu l'a consolé par l'entremise de Hadrat Abu Bakr et lui a donné le titre d'As-Siddiq. Il était le proche du prophète et Allah lui a donné le titre de Thaniyat Ithnain. Et il était parmi ses serviteurs choisis. Dans son recueil Malfouzar, le Messie premier alayhi salam déclare que à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le premier calife, était un très grand commerçant. Et en acceptant l'islam, il a accordé un soutien incomparable au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et il a eu le titre d'as-siddiq. Il était le premier ami du saint prophète et le premier calife. On rapporte que lorsqu'il retournait de son commerce et qu'il n'était pas encore à la Mecque, en cours de route, il a rencontré un Mécois et lui a demandé des nouvelles de la Mecque. Celui-ci a déclaré qu'il n'a pas d'autres informations, sauf que ton ami s'est dit prophète. Abu Bakr a déclaré que s'il a fait cette déclaration, eh bien certainement, c'est que c'est vrai. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que Hadrat Abu Bakr a offert tous ses biens pour la cause de Dieu et il s'est contenté de porter une simple couverture. Mais qu'est-ce qu'Allah lui a donné en retour? Il fut le roi de tous les Arabes. Et c'est par ses mains que l'islam a retrouvé sa renaissance. Et encore une fois, il a remporté la victoire sur les apostats. Et Dieu lui a accordé ce dont les autres ne pouvaient imaginer. À propos de Hadrat Omar, le Messie premier d'Islam déclare que « Savez-vous quel est le statut de Hadrat Omar ?» On dit que dans certains cas, certains versets étaient révélés qui étaient en accord à l'opinion de Hadrat Omar. Et il y a ce hadith qui dit que même Satan a peur de l'ombre de Hadrat Omar. Dans un autre hadith, le saint prophète a déclaré que s'il y aurait un prophète après moi, eh bien ce sera Hadrat Omar. Et ensuite, il a déclaré que dans les premiers Ummah, il y avait des Muhaddas. S'il y a un Muhaddas dans ma Ummah, eh bien, ce sera Omar. À propos de Hadrat Omar, le Messie premier l'Islam a déclaré que Omar, radiallahu anhu, avait des révélations ou recevait des révélations, mais il s'était considéré comme moins que rien. Dieu avait envoyé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et jamais Omar n'a dit qu'il était à pied d'égalité au saint prophète parce qu'il a recevé des révélations. Au contraire, il s'est dit inférieur, il s'est dit esclave du saint prophète. C'est pour cette raison que Dieu a fait de lui le suppléant du saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui. C'est-à-dire Dieu lui a accordé le statut de calife. Dans son ouvrage « Hujjatullah », écrit en arabe, le Messie premier l'Islam déclare il déclare que deux personnes ont été enterrées à côté du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, deux personnes vertueuses et pures, deux personnes qui lui étaient proches. Et Dieu, dans la mort et dans la vie, leur a accordé cette proximité au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est-à-dire, même après leur mort, ils ont été enterrés à propos du saint prophète. La vraie amitié est celle qui dure jusqu'à la fin. Et vous allez trouver peu d'exemples de ce genre. Ils sont bénis car ils étaient en compagnie du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parce qu'ils étaient dans la ville du saint prophète, Mohammed paix soit sur lui. Et ils ont été choisis comme calife après lui. Et parce qu'ils ont été enterrés en compagnie du saint prophète, Mohammed paix soit sur lui. Et parce qu'ils étaient proches de lui dans le paradis. Et au jour de la résurrection, ils vont se lever en compagnie du saint prophète, paix soit sur lui. Dans le même ouvrage, Sirul Khilafa, le Messie premier l'Islam, déclare mon Seigneur m'a fait comprendre que Hadrat Abu Bakr Siddiq, Hadrat Omar Farouk, Hadrat Uthman radhiyallahu anhu, c'était des personnes pieuses, des personnes emplies de foi. C'était des personnes que Dieu avait choisies, des personnes à qui Dieu avait accordé ses faveurs. Je jure par Dieu, Dieu a fait de Hadrat Abu Bakr, d'Omar et d'Uthman les gardiens de la porte de l'islam et les gardiens de l'islam. À propos de Hadrat Ali, le Messie premier l'islam, déclare qu'il était muttaqi, qu'il était pur de cœur, et il était de ceux qui étaient les plus aimés par Dieu, Ar-Rahman. Il était d'une très bonne famille, et il était parmi les chefs de la période. Il était le champion de Dieu. Il était le lion de Dieu. Il était empli de sympathie. Il était d'une grande générosité et pur de cœur. Il était brave et il n'abandonna jamais le champ de bataille, même s'il y avait devant lui toute une armée. Il a vécu dans l'indigence et il était des plus purs. Il était très généreux. Il était toujours prêt à alléger les souffrances des orphelins et des indigents. Il était un guerrier hors pair. Et ses faits d'armes sont très connus sur le champ de bataille. Le Messie premier, l'Islam, nous fait comprendre qu'il avait un très grand statut. Il a prouvé sa bravoure sur le champ de bataille. Et il était très apte dans l'usage des armes de l'époque. De même, il était un orateur éloquent. Il était un orateur très éloquent et il était hors pair dans ce domaine. Et ses paroles pénétraient jusqu'au très fond du cœur. Grâce à ses paroles, il faisait disparaître la turpitude des esprits. Et il éclairait les gens grâce à ses arguments. Il connaissait tous les principes de la vie. Et s'il y avait quelqu'un qui possédait quelques qualités, cette personne était complètement subjuguée par la personnalité de Hadrat Ali et lui présentait ses excuses. Hadrat Ali était parfait dans toutes ses œuvres. Celui qui rejette ses qualités, eh bien cette personne marche sur les voies de l'indécence. Il encourageait à venir en aide aux indigents et il donnait l'ordre de nourrir ceux qui se contentaient de leur sort et ceux qui demandaient de l'aide. C'est-à-dire, il s'occupait de ceux qui étaient dans le besoin, mais qui ne demandaient pas à l'aide, et il aidait aussi ceux qui lui demandaient à l'aide, même s'ils insistaient. Il était parmi les proches de Dieu. Ainsi, il a profité du Saint-Coran. Il était parmi les premiers à en profiter. Il connaissait les points subtils du Saint-Coran. C'est-à-dire, il a profité du Saint-Coran, il a profité de ce lait spirituel du Saint-Coran et de cette connaissance. Et il avait acquis une grande connaissance des points subtils du Saint-Coran. Le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a émigré vers Médine. En présentant cet incident et le rôle de Hadrat Ali, le Messie premier l'Islam déclare que il y avait un proche qu'il aimait, que le saint prophète Mohammed paix soit lui aimait, une personne qui était emplie de foi. Par amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, cette personne s'est cachée dans le lit du saint prophète Mohammed paix soit lui, afin que les espions ne savent pas que le saint prophète Mohammed paix soit lui est sorti. Et afin qu'ils attendent pour tuer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, alors que Hadrat Ali était dans son lit. Et le Messie premier l'Islam a décrit cette situation dans des vers en langue persane. Il dit dans ses vers que personne ne donne sa vie pour un autre, personne n'offre son cou pour un autre. C'est l'amour qui nous pousse à accomplir de telles œuvres. Le Messie premier Islam a déclaré qu'il a une certaine affinité avec Hadrat Ali et Hadrat Hussein. Il déclare que j'ai une certaine similarité très subtile avec Hadrat Ali et Hussein. Et seul Dieu connaît le secret de cette relation. Certainement, j'ai un grand amour pour Hadrat Ali et pour ses deux fils. Et je suis l'ennemi de ceux qui est l'ennemi de ces deux personnes. Le Messie premier l'Islam a décrit les qualités de ces deux fils de Hadrat Ali et leurs œuvres. Et il déclare que Hadrat Hassan, selon moi, a accompli une œuvre remarquable. Il n'a pas voulu être choisi comme calife, car des milliers de personnes avaient perdu leur vie. Il ne voulait pas qu'il ait davantage de tueries. C'est pour cette raison qu'il s'est contenté de se soumettre à Muawiyah. Cette action ne plaît pas aux chiites. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas contents de Hadrat Imam Hassan. C'est vrai qu'il est lui aussi un enfant de Hadrat Ali, mais les chiites ne font pas autant d'exagérations concernant Hadrat Hassan, tout comme ils le font à propos de Hadrat Hussein. C'est pour cette raison que le Messie promet l'Islam déclare qu'il n'était pas content de Hadrat Hassan. Le Messie promet l'Islam déclare que nous les aimons tous deux et nous les louons tous deux. En fait, chaque personne a des aptitudes qui lui sont propres. Hadrat Imam Hassan n'aimait pas faire couler le sang des musulmans davantage. Il aimait la paix et il a eu cela en tête. Et Hadrat Imam Hussein, quant à lui, n'a pas aimé prêter allégeance sur les mains d'un fauteur de troubles et d'un pervers. Les intentions de tous deux étaient louables. Innamal a'malu binniyat. C'est vrai aussi que l'islam a progressé aux mains de Yazid. C'était là une grâce de Dieu. Si Dieu le désire, il peut faire progresser l'islam par la main d'un pécheur. Le fils de Yazid était vertueux. Le Messie promet à l'Islam nous explique cela davantage. Il dit que l'on doit toujours comprendre que les prophètes de Dieu et les personnes vertueuses, des personnes véridiques qui sont choisies par Dieu, ces personnes servent d'exemple pour les autres. Celui qui n'essaie pas de suivre leur exemple, mais qui se contente de se prosterner devant ces personnes pour qu'ils comblent leurs besoins, c'est-à-dire s'ils exagèrent, s'ils outrepassent les limites, s'ils ne prennent pas, pour exemple, ces cinq personnages, mais s'ils se prosternent devant eux pour qu'ils comblent leurs besoins, eh bien ces personnes n'auront aucune valeur aux yeux d'Allah. Au contraire, ceux qui sont coupables de ces actions vont constater que ces imams vont se détourner d'eux au jour de la résurrection. Ainsi, ceux qui exagèrent concernant le statut de Hadrat Ali et Hadrat Imam Hussein, ces personnes ne sont pas les suivants de Hadrat Ali et Hussein. Et certainement, Ali et Hussein n'en seront pas contents. Les prophètes sont toujours des exemples pour les autres. Et sans les suivre, on ne pourra rien acquérir. C'est-à-dire, on doit tout simplement suivre la voie de ces personnes pieuses et suivre la voie des prophètes. Le Messie promet l'Islam prodigue des conseils aux Ahmadis. Il y avait quelqu'un qui avait prononcé des paroles irrévérencieuses à l'égard de Hadrat Imam Hussein et le Messie promet l'Islam était très en colère à ce sujet. Et elle déclare que j'ai reçu la nouvelle que quelqu'un a insinué que certains sous qui se disent être mes suivants et de ma jamaat auraient affirmé que Dieu nous en préserve, que Hadrat Imam Hussein radhiyallahu était un rebelle parce qu'il n'avait pas prêté allégeance à Yazid, le calife de l'époque, et que ce dernier était en droit de prendre le pouvoir, que la malédiction de Dieu frappe le menteur. Je ne crois pas qu'une vilenie pareille puisse sortir de la bouche d'un membre de ma communauté. Mais j'ai aussi compris que, puisque les chiites, quant à eux, n'ont cessé de m'insulter et de m'outrager, c'est pour cette raison qu'il se peut que quelqu'un ait répondu à leurs insultes. Et il se peut qu'un sot ait pu répondre à leurs sottises par d'autres sottises. Tout comme certains musulmans ignorants insultent Hadrat Isa alayhi salam lorsque les chrétiens insultent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, j'annonce à ma jamaat et je leur fais comprendre que nous avons cette foi que Yazid était un impur et une vermine de ce bas monde, un despote qui ne mérite pas le titre de croyant. dans tous les sens applicables de ce terme. Ce n'est pas chose facile d'être croyant. Dieu déclare à propos de cette catégorie de personnes, « قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمن ولكن كل أسلمنا » Les croyants sont ceux dont les actions témoignent de la ferveur de leur foi. Une foi qui est gravée dans leur cœur et qui accorde préférence à Dieu et à son plaisir sur toute autre chose. Ils marchent sur les voies étroites de la taqwa pour la cause de Dieu. Ils s'annihilent complètement en Dieu et évitent toute chose qui, telle une idole, entrave leur voie vers Dieu, que ce soit leur état moral, les mauvaises actions, la négligence ou la paresse. Yazid l'infâme possédait-il ces qualités? Il fut aveuglé par l'amour de ce bas monde. Mais Hussein était pur d'entre les purs. Sans aucun doute, il était un de ces illustres personnages purifiés par la main de Dieu, une personne qui a été choisie par Dieu. Certainement, il était un des chefs du paradis. Celui qui aura la moindre rancœur à son encontre mettra sa foi en péril. La taqwa, l'amour de Dieu, la patience, la persévérance, la piété, les ibadats de cet imam sont pour nous autant d'exemples. Et nous sommes de ceux qui suivent la direction qui lui a été accordée. Détruit soit le cœur qui est son ennemi, et le cœur qui exprime ouvertement son amour pour lui mérite le succès. Un cœur qui est le reflet parfait de la vertu, de la bravoure, de la taqwa, de la persévérance et de l'amour divin que possédait l'imam Hussein. Le monde ne reconnaît pas ceux qui appartiennent à cette catégorie. Seul celui qui est des leurs pourra les reconnaître à leur juste valeur. Le monde ne les reconnaît pas parce qu'ils en sont très éloignés. Voilà la raison du martyre de Hussein. Il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Le monde avait-il auparavant éprouvé de l'amour pour les vertueux pour qu'il exprime son amour à l'égard de Hussein? Ce sera une infamie, une œuvre d'impie que de mépriser Hussein, radhiyallahu anhu. Celui qui honie Hussein, radhiyallahu anhu, ou celui qui honie les imams purs, ou qui utilise des paroles méprisantes à leur égard, cette personne est en train de nuire à sa foi. Il en est ainsi parce que Dieu est l'ennemi de ceux qui sont les ennemis de ses choisis. Ce sera un très grand péché que d'insulter les bien-aimés d'Allah en résultat des insultes et des injures proférées par quelqu'un contre moi. En de telles situations, on doit pardonner la personne qui est coupable et on doit prier pour l'ennemi qui est sot. Car si ceux qui m'insultent savaient de qui je suis venu, eh bien ils n'auraient pas commis pareille action. Le terme « lien de parenté spirituelle » est très approprié pour les bien-aimés d'Allah. Dans le Daroud, nous lisons « Ali Muhammadin » et il déclare que cette parole « Ali » ou le lien de parenté spirituelle est très approprié pour les bien-aimés d'Allah. Il est en train de mentionner l'imam Hassan Hussein ou les membres de la famille du Saint-Prophète Mohammed B. soit lui, ils étaient apparentés spirituellement au Saint-Prophète et ont hérité de ses faveurs spirituelles. Et aucun usurpateur ne pourra les priver de ses faveurs. Et ils sont héritiers de ces jardins dont personne ne pourra les en priver. Ainsi donc, ces concepts de fils ont pris racine parmi les musulmans lorsque leurs âmes sont mortes. Et lorsqu'ils n'ont pas eu ce lien de parenté spirituelle avec les prophètes. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été privés de ces richesses spirituelles. Ils sont devenus ineptes et ils étaient aveugles. Les deux imams, Imam Hussein et Hassan, radhiyallahu anhum, étaient les choisis de Dieu. C'étaient des personnes qui possédaient une grande pureté, des personnes chastes. c'était des imams de la direction. Et certainement, ils étaient apparentés spirituellement et physiquement au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est la religion des gens doués de savoir et de vérité que, s'il n'y avait pas de lien physique entre Hadrat Imam Hussein et Hussein avec le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, eh bien, en raison de leur lien spirituel avec le Saint-Prophète, ils seraient considérés comme les membres de sa famille au ciel. Sans aucun doute, ils auraient profité des biens spirituels du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. S'ils ont eu un lien physique avec le Saint-Prophète, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de lien spirituel? Mais le Saint-Coran et le Hadith nous fait comprendre qu'il y a des liens entre les âmes et que l'animosité ou l'amitié dure pour l'éternité. Ainsi doit-on être fier parce qu'on est apparenté spirituellement au Saint-Prophète ou parce qu'on est apparenté physiquement au Saint-Prophète et que l'on ne possède pas la taqwa et la pureté. Ne croyez pas que par ces paroles, je suis en train de porter atteinte à l'honneur des membres de la famille du Saint-Prophète. Le Messie premier, l'Islam, nous fait comprendre que le lien spirituel est plus important que ce lien physique avec le Saint-Prophète. Le Messie premier, l'Islam, déclare que ne croyez pas que je suis en train de porter atteinte à l'honneur des membres de la famille du Saint-Prophète. Par ces paroles, je suis tout simplement en train de dire que l'imam Hassan et Hussein étaient liés physiquement au Saint-Prophète, mais cela n'était pas limité à leur lien physique, car ce lien physique ne sert à rien sans lien spirituel. La chose la plus importante, c'est ce lien spirituel. Ensuite, il nous fait comprendre que cette vraie relation, c'est cette relation spirituelle avec le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ils ont possédé la lumière et la connaissance qui est venue des prophètes. La chose essentielle, c'est cette lumière spirituelle, ce sont ces enseignements qui se répandent. Voilà la chose la plus importante. Et ces personnes qui renaissent grâce à cette lumière, ces personnes sont considérées spirituellement comme les membres de la famille du Saint-Prophète. Ainsi, tout Ahmadi, tout musulman, s'ils veulent suivre les enseignements du Saint-Prophète, s'ils vont profiter de la lumière du Saint-Prophète, si on va suivre ces enseignements, c'est là que l'on va être considéré comme un membre de la famille du Prophète. Voilà la voie que tout musulman doit suivre. Il est important de reconnaître le statut de chacune de ces personnes, d'honorer chacune de ces personnes. Il faut mettre fin à ces dissensions, à ces troubles, à ces tueries. Il se peut qu'en raison de ces tueries, qu'en raison de ces atrocités, en raison de ces troubles, le fait que les musulmans sont en train de s'entretuer, il se peut qu'il y a derrière tout cela la main des forces anti-islamiques. Ce sont eux qui sont en train de former ces groupes, qui sont en train de créer cette dissension et qui sont en train de les payer pour fomenter ces troubles. Il y a ces attaques contre les chiites, il y a ces attaques dans ces mosquées. Il y a derrière tout cela la main de ces organisations que l'État considère comme des terroristes. Et selon les rapports de l'État, est que parmi ces groupes terroristes, il y a aussi des non-musulmans, mais des gens qui sont là pour créer des troubles et qui sont venus de l'extérieur. Qu'Allah ait pitié de notre Oumma et qu'Allah leur accorde la possibilité de s'unir. Je m'adresse aux Ahmadis et je leur dis que les autres musulmans sont en train de s'entretuer et sont en train de se venger les uns contre les autres. Lorsque quelqu'un causait un attentat, les autres aussi essayent de les tuer. Mais nous qui avons prêté allégeance aux mains du Messie promis, alayhis-salam, en dépit de toutes ces atrocités commises contre nous, le fait qu'ils s'unissent tous pour nous persécuter, en dépit de tout cela, jamais nous devons penser à nous venger. Certes, si on doit agir, eh bien, l'on doit comprendre que chacun d'entre nous doit progresser dans la taqwa, dans la vertu, après que l'on ait commis ces atrocités contre nous. Plus qu'auparavant, nous devons nous tourner davantage vers Dieu, établir une relation sincère avec Dieu et nous consacrer à la prière. L'imam Hussein a présenté le sacrifice de sa vie. Il nous a servi d'exemple. Il est un guide pour nous. Hadrat Musleh Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, nous a prodigué des conseils. Dans un vers d'un poème, il dit qu'ils vous font devenir Hussein alors qu'ils sont eux-mêmes yézides. Quel commerce facile! Laissez donc les ennemis lancer leurs flèches. Le Messie premier d'Islam a déclaré que l'imam Hussein était ou est le chef des jardins du paradis. Il nous a enseigné patience et persévérance et il nous a montré la voie vers le paradis. Durant ces jours, c'est-à-dire durant le mois de Muharram, vous devez prier pour vous-même. Vous devez prier pour qu'Allah vous accorde patience et persévérance et vous devez prier pour qu'Allah vous protège de l'ennemi en récitant la prière Rabbi Kuli Shayin Khadimuka, Rabbi Fafazni, Wansurni, Warhamni. J'ai déjà dit qu'on doit réciter cette prière pour être à l'abri des dangers. Il y a la prière Allahumma ina naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhubika min shururihim. On doit réciter cette prière souvent. On doit aussi souvent réciter le Daroud. J'en ai fait mention auparavant. Qu'Allah accorde sa protection à tout Ahmadi et qu'Allah retourne tout complot de l'ennemi contre l'ennemi lui-même et qu'Allah nous accorde son soutien et son aide et qu'Allah ait pitié de nous et qu'Allah retourne la méchanceté de l'ennemi contre l'ennemi lui-même et qu'Allah accorde sa protection à la Jamaat et à chaque membre de la Jamaat. Qu'Allah retourne tout plan et tout complot qu'ils sont en train d'ourdir contre la communauté et qu'Allah fasse que nous soyons véritablement parmi les membres de la famille du Saint-Prophète Mohammed, paix sur lui. Tout comme l'a déclaré le Messie premier d'Islam, le statut véritable c'est d'être un membre de la famille spirituelle du Saint-Prophète, même si on a cette relation physique, et bien cette relation physique est une faveur, certes. Mais si on a cette relation physique mais qu'on n'a pas cette relation spirituelle, eh bien cette relation physique n'a aucune importance. On ne va pas profiter des bénédictions qui sont liées avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des bénédictions qui ont été promises par Dieu au saint prophète. Ainsi, nous devons à chaque instant faire notre analyse de conscience. Lorsque nous récitons le Daroud, eh bien l'on doit voir jusqu'à quel point sommes-nous en train de profiter de ces daroud et jusqu'à quel point pour en profiter sommes-nous en train de mettre en pratique les enseignements du Saint-Prophète Mohammed, paix sur lui, jusqu'à quel point sommes-nous sous l'autorité du Saint-Coran quand nous avons déjà prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. Qu'Allah fasse que nous puissions nous rapprocher davantage de lui en résultat du fait que nous avons compris le statut de ces personnes et le fait que l'on soit persécuté par les autres, le fait aussi que certains États nous oppriment, qu'Allah fasse que face à tout cela, nous puissions nous rapprocher davantage de Dieu, et que nos sacrifices puissent amener des gens de bonne nature dans le giron de l'Ahmadiyya, et que nous puissions voir les victoires de l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Nous avons vu donc comment l'Israël est en train de traiter les Palestiniens. Vous devez beaucoup prier pour qu'Allah protège les innocents, qu'il protège les innocents de ces atrocités. Selon les dernières déclarations, l'Israël est en train de dire que nous ne pouvons pas vivre dans la peur. C'est pour cette raison que nous avons lancé ces attaques. Ils ont lancé ces attaques en premier. Et lorsque les autres ont répliqué, ils ont dit que voilà, les Palestiniens sont en train de nous terroriser. C'est une situation des plus étranges. Ils sont en train de suivre cette méthode, comme je l'ai dit, tout simplement parce que les musulmans ne sont pas unis. Qu'Allah ait pitié d'eux. Et qu'Allah ait pitié de ces Palestiniens innocent qu'Allah les protège de toute atrocité.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.